make a home from rented house. Oh, oh, oh. And we'll collect the moments one by one. I guess that's how the future's done. Oh, oh, oh. How many acres, how much light? Tucked in the woods and out of sight. Talk to the neighbors and tip my cap on a little rug belly on my map. Oh, dirt road, deep snow, watching the fire as we grow.
Thank you. Depuis qu'Internet révolutionne les relations entre les hommes en faisant tomber les barrières, les frontières, nos vies, nos sentiments, notre quotidien risque de devenir de moins en moins concret et de plus en plus virtuel.
Principe actif, le mix des cultures.
Internet, c'est en quelque sorte un centre de documentation à l'échelle de la planète.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Et partout ailleurs sur principeactif.net.
From the village of Penlanden, to pursue destiny, my ancestors wanted. Be sure a seed has been planted to blossom in a fierce flower. You can't destroy this.
À Beyrouth, 4h en temps universel. Et 5h à Kinshasa. Bonjour Marion Gazanov.
Bonjour Arthur Ponchelet.
Une nouvelle demi-heure d'actualité avec vous. Et d'abord le journal à la une, ce cessez-le-feu au Liban, sous condition.
Oui, si le Hezbollah cesse ses tirs de roquettes et se retire de la zone occupée par l'armée israélienne. L'accord a été trouvé hier par Israël et le Liban à Washington et prévoit aussi la création de zones pilotes contrôlées par l'armée libanaise dans le sud du Liban. En Russie, l'ouverture d'un sommet économique à Saint-Pétersbourg perturbé hier par des frappes ukrainiennes. Ces frappes à plus de 1000 km de Kiev montrent à quel point l'Ukraine a augmenté ses capacités militaires en termes d'attaques de drones. Les États-Unis imposent de nouvelles sanctions contre des responsables de groupes armés dans l'est de la RDC. Des sanctions qui, jusqu'ici, n'ont pas eu d'impact, nous expliquera le docteur en sciences politiques Bob Kabamba. Et puis, à une semaine du mondial de football, le Mexique, qui accueillera le match inaugural, secoué en ce moment par de vastes manifestations d'enseignants. De nouvelles frappes israéliennes font 10 morts au Liban. Nouvelles frappes hier, donc, quand le Hezbollah revendiquait, lui, des tirs de roquettes vers Israël. D'ailleurs, tôt ce matin, une alerte aérienne a retenti dans le nord d'Israël. Les affrontements se poursuivent donc, alors que, dans le même temps, le Liban et Israël se sont accordés hier sur un nouveau cessez-le-feu, mais sous conditions, Vincent Souriau.
Les conditions sont strictes et soulignées dès l'entame du communiqué. Il n'y aura de cessez-le-feu que si le Hezbollah cesse ses tirs de roquettes et qu'il évacue la zone occupée par l'armée israélienne au sud du fleuve Litani. Le Liban rappelle ses fondamentaux, respect des frontières, cessation des hostilités, intégrité territoriale. Il obtient pour ce faire la création prochaine de zones pilotes placées sous le contrôle exclusif des forces armées libanaises, forces libanaises que les États-Unis s'engagent à soutenir afin d'améliorer leurs capacités. Israël, pour sa part, maintient son principal objectif, obtenir le désarmement du Hezbollah et le démantèlement de ses infrastructures sur l'ensemble du territoire libanais. Les deux parties répètent qu'elles n'ont pas d'intention hostile l'une envers l'autre et conviennent d'un nouveau chapitre de négociations politiques et sécuritaires prévu le 22 juin à Washington afin de parvenir à un accord définitif. Vincent Souriau, Washington RFI.
L'armée israélienne poursuit aussi ses opérations à Gaza, au moins 8 morts tôt ce matin dans des bombardements sur la ville de Gaza. Les frappes israéliennes sont quasi quotidiennes dans l'enclave palestinienne malgré un cessez-le-feu en vigueur depuis octobre dernier. Les députés américains, eux, approuvent un texte ordonnant la fin de la guerre en Iran. C'était il y a quelques heures. Un texte symbolique car Donald Trump possède un droit de veto. On en reparle avec Vincent Souriau dans le journal de 7h, heure de Paris. Le forum économique de Saint-Pétersbourg se poursuit aujourd'hui. Son ouverture hier a été perturbée par des attaques ukrainiennes, des frappes sur des sites stratégiques et alors que les représentants de 130 pays étaient attendus pour ce sommet. Et ces attaques, Franck Alexandre, démontrent une nouvelle fois la capacité de Kiev à frapper loin en territoire russe.
Les drones longue portée ukrainiens ont frappé un terminal pétrolier dans le port de Saint-Pétersbourg. Ils ont également touché la très récente frégate Boïki qui était en entretien sur la base navale de Kronstadt. Pour parvenir à mener des raids aussi efficaces sur une distance de plus de 1000 km, les forces ukrainiennes ont dû relever quelques défis, souligne Vincent Touré, chercheur à l'IFRI.
Le premier, c'est tout simplement le nombre de drones en production pour atteindre ces distances-là. C'est augmenter la charge utile sur chaque drone, réussir à avoir des appareils qui soient capables d'évoluer malgré des interférences électroniques russes. Et puis, enfin, c'est le problème, effectivement, d'affaiblir suffisamment la défense antiaérienne et antimissile de Moscou pour passer de plus en plus. Les Ukrainiens, sur plus d'un an, ont fait cet effort industriel, technologique et opérationnel, où petit à petit, ils ont grignoté, en fait, les batteries et les radars situés en Ukraine, puis ensuite dans les régions limitrophes comme Belgorod ou la Crimée, et ont commencé à élargir les trous dans la raquette de la défense russe.
Ces 12 derniers mois, plus d'une centaine de radars militaires russes ont ainsi été détruits et désormais, seule la ville de Moscou bénéficie encore d'une défense solaire au maillage plus ou moins serré.
Et après ces frappes ukrainiennes sur Saint-Pétersbourg, le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio s'est inquiété d'un risque d'escalade dans cette guerre. L'Ukraine a d'ailleurs mené cette nuit de nouvelles attaques, cette fois en Crimée, cette péninsule annexée en 2014 par Moscou. 3 personnes ont été tuées à Simferopol, selon les autorités locales. L'Ukraine qui fait un nouveau pas vers l'Union européenne, les 27 ont donné hier leur feu vert préliminaire pour ouvrir des discussions sur une adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie. Jusqu'ici, la Hongrie de Viktor Orban posait son veto, mais depuis l'arrivée au pouvoir en avril du pro-européen Péter Madiar, ce veto est désormais levé, ce qui ouvre donc la voie à des négociations. Débat houleux au Parlement britannique. Hier, le Premier ministre Keir Starmer a accusé Nigel Farage d'attiser la violence à 2 semaines d'une élection partielle cruciale. Nigel Farage du parti d'extrême droite Reform UK accuse la police, je cite, de préjugés anti-blancs. En décembre, la police britannique avait menotté un étudiant blanc qui était en train d'agoniser. Son meurtrier, un jeune homme sikh, l'accusait à tort d'injures racistes. Cette affaire continue donc de faire polémique avec une manifestation organisée par l'extrême droite contre la police mardi, puis des débats hier au Parlement. Pour Aurélien Antoine, professeur des universités, spécialiste des institutions britanniques, cette affaire vient affaiblir un peu plus le Premier ministre et plus globalement le parti travailliste au pouvoir.
Keir Starmer, comme d'autres, est victime d'un certain nombre d'erreurs personnelles, de choix politiques et aussi de problématiques liées à des affaires graves comme l'affaire Epstein. Il est aussi victime très largement du contexte international et d'une crise économique qui dure. Ce contexte-là, très défavorable, malheureusement, quand on est au pouvoir, c'est très difficile de le surmonter. Le grand avantage des partis qui ne sont pas au pouvoir, et notamment ceux qui ne l'ont jamais été, comme Nigel Farage, c'est qu'ils peuvent toujours prétendre faire mieux. On ne le saura pas tant qu'ils ne seront pas au pouvoir. Et beaucoup d'électrices et d'électeurs se disent on verra bien ce qu'ils font, ça ne coûtera rien de voter pour eux. Donc pour Keir Starmer, malheureusement, si on n'a pas des retournements de conjoncture, l'avenir pour lui reste quand même assez sombre, mais je ne crois pas qu'en tout cas le changement de leader au sein du Parti travailliste changera fondamentalement la situation du parti au pouvoir dans les mois à venir.
Le spécialiste des institutions britanniques Aurélien Antoine, propos recueillis par François-Damien Bourgerie. RFI 5h07 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. L'opposition revendique une démonstration de force populaire après la journée ville morte d'hier. La plateforme C64, qui regroupe plusieurs partis, s'oppose à la réforme de la Constitution voulue par le pouvoir et qui permettrait au président Félix Tshisekedi de briguer un troisième mandat. Dans certains quartiers, la circulation était donc au ralenti. Hier, certains magasins sont restés fermés. La majorité, elle, conclut à un échec de cette mobilisation. Les États-Unis imposent de nouvelles sanctions contre des chefs de groupes armés dans l'est de la RDC. Elles visent cette fois le chef du renseignement de la FCM-23, John Imani Nzenze, et Gustave Kouboyo, qui dirige une unité de renseignement des FDLR, groupe armé formé d'anciens génocidaires rwandais. Déjà en mars, Washington avait sanctionné l'armée rwandaise et 4 de ses responsables pour leur soutien à la FCM-23. Mais ces sanctions prises ces derniers mois n'ont pas vraiment eu d'impact, selon Bob Cabon, professeur à l'Université de Liège.
Lorsqu'on regarde la politique américaine des sanctions contre les différents groupes rebelles ou bien contre les personnalités dans le monde, pas que au Congo, on se rend bien compte que quand même, ces sanctions ne sont pas nécessairement suivies des effets sur les terrains. Le fait de pouvoir être sanctionné ne constitue pas véritablement un frein. Il y a plusieurs cas d'exemples où on a des personnes sanctionnées qui continuent à occuper des postes importants. C'est le cas par exemple du vice-président du Sénat qui est sanctionné par le Trésor américain et pourtant il a été élu vice-président du Sénat. Et alors, pour les cas de la rébellion, c'est qu'il faut se rendre bien compte qu'au fur et à mesure qu'il y a des sanctions qui sont prises à l'encontre de ces dirigeants, se constitue au sommet donc, de la rébellion une espèce de club qu'on appelle le club des sanctionnés. Et lorsqu'on rejoint ce club, cela veut dire par rapport à la personne sanctionnée, comme si c'était une gratification, comme si c'était une reconnaissance d'un certain poids au sein de l'échiquier rebelle. Et donc, oui, les sanctions sont prises. Non, les sanctions ne permettent pas de pouvoir mettre fin à des exactions, voire même à des offensives militaires sur le terrain.
Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège, avec Patient Ligaudy. Une défaite amère pour l'Allemagne, de l'aveu même de son chef de la diplomatie. Le pays a subi hier un lourd revers en perdant son siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. D'habitude, cette élection, c'est une formalité, mais cette fois, les membres du Conseil lui ont préféré l'Autriche et le Portugal. À Berlin, la correspondance de Pascal Thibault.
Ironie de l'histoire, c'est à une Allemande, l'ancienne ministre des Affaires étrangères écologiste Annalena Baerbock, présidente de l'actuelle session des Nations Unies, qui est revenue le rôle ingrat d'annoncer la défaite historique de son pays. L'Allemagne a été élue 6 fois au Conseil de sécurité de l'ONU. Ce vote a toujours été une formalité. Berlin se présente comme le bon élève de la classe, une puissance de poids qui soutient financièrement l'organisation et défend le droit international et le multilatéralisme. Mais cette image est écornée. Certains États ont le sentiment que le principe du deux poids deux mesures transparaît trop souvent ou que l'Allemagne n'a pas de position claire. Le positionnement pro-israélien de Berlin a terni l'image du pays auprès de capitales qui prennent la cause des Palestiniens. Le manque de critiques contre Washington, voire le Venezuela ou l'Iran, le recul de l'aide au développement de Berlin ou la campagne de la Russie contre Berlin en raison du soutien résolu de l'Allemagne à l'Ukraine constituent autant d'explications pour cet échec. L'opposition au chancelier Merz a dénoncé son échec personnel. Même ses alliés sociaux-démocrates moins virulents ont affiché des états d'âme sur la politique diplomatique du chancelier qui voulait pourtant que son pays soit plus actif sur la scène internationale. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Dans une semaine tout juste, c'est le début de la Coupe du Monde de football. Le premier coup de sifflet résonnera à Mexico. Mexico accueillera le match d'ouverture Mexique-Afrique du Sud. Les projecteurs seront donc bientôt braqués sur le Mexique. Alors les enseignants au Mexique en profitent pour lancer de vastes manifestations. Ils mettent donc la pression sur le gouvernement qui craint que ces grèves ne durent donc jusqu'au mondial. Les professeurs demandent de meilleures conditions de travail et surtout de retraite. Gwendolina Duval Orientale est allée à leur rencontre.
Dans la rue, des milliers de professeurs sont mobilisés en différents points de la capitale mexicaine. Leurs revendications ne sont pas nouvelles, mais la pression sur le gouvernement augmente à l'approche du mondial.
Bien sûr, c'est une bonne conjoncture. On croit qu'ils peuvent nous écouter un peu plus. On y croit, parce qu'on sait qu'avec ce genre d'événement, le gouvernement protège ses intérêts, des intérêts économiques.
Cette professeure du secondaire, venue d'un état du sud du Mexique, déplore que l'éducation ne soit pas parmi les priorités du budget gouvernemental.
Nous enseignons dans des maisons qu'on nous prête, de petits espaces aménagés, et ici ça me rend triste de voir comment ils dépensent tant d'argent dans des publicités. Partout il y a des ballons, des références au mondial et au football, tout ça pour essayer de montrer que nous allons bien, alors que ce n'est pas vrai. Si vous allez dans les états de Guerrero, Oaxaca et beaucoup d'autres endroits du pays, vous verrez qu'il y a beaucoup de carences.
Les syndicats exigent une rencontre avec la présidente Claudia Sheinbaum, Filiberto Frausto.
Pour l'instant, il n'y a pas de réunion prévue, aucun engagement. Il n'y a non plus aucun accord pour nous réunir avec les autorités.
Alors que la mobilisation continue, ces prochains jours, quelques manifestants appellent à bloquer l'aéroport. Gwendolina Duval, Mexico, RFI.
Et avant ce mondial de football, les équipes nationales se préparent avec des matchs amicaux. La France, par exemple, accueille ce soir à Nantes la Côte d'Ivoire. Coup d'envoi 19h10, temps universel. Et puis en basket, les San Antonio Spurs de Wembanyama démarrent mal la phase finale de NBA. Ils ont perdu leur premier match il y a une demi-heure contre les New York Knicks. Score final 105-95. Cette finale se dispute au meilleur des 7 matchs. Leur prochaine rencontre, c'est vendredi et toujours à San Antonio, au Texas. RFI, 6h13 à Paris. On reste ensemble pour une vingtaine de minutes encore.
RFI, toute l'actualité, Marion Cazanov.
Et direction d'abord l'Arménie, à quelques jours des législatives, la campagne marquée par des pressions du grand voisin russe, agacé de voir le pays se tourner de plus en plus vers l'Europe. On ira ensuite en Égypte où la natalité est en baisse. C'est une bonne nouvelle pour les autorités. Elles voulaient freiner les naissances car le système éducatif, médical, social est au bord de l'implosion. On partira ensuite en Côte d'Ivoire avec le réalisateur Joël Akafou et son documentaire sur le combat d'une femme pour réconcilier un village fracturé par la crise de 2011. À suivre également le Conseil Santé, un tour dans la playlist musicale, puis le retour de l'actualité africaine. Des législatives en Arménie, la Russie accentue ses pressions politiques sur ce petit pays du Caucase, ancienne république soviétique. Moscou s'agace de voir Yerevan lui tourner le dos et aller de plus en plus vers l'Europe. Vladimir Poutine, le président russe, demande à son voisin de choisir entre Bruxelles et l'Union économique eurasiatique. Ces pressions se traduisent par des restrictions d'importation. Et c'est surtout la filière agricole qui les subit, une filière encore très dépendante du marché russe, comme l'a constaté Marie Penin, notre correspondante à Yerevan.
À une trentaine de kilomètres de Yerevan, dans la région d'Almavir, David Daftian inspecte ses champs d'asperges. Avec ses frères et son père, il exploite aujourd'hui une trentaine d'hectares répartis entre le Sunni, Kodaïk et ici Almavir. L'asperge est peu consommée en Arménie, mais c'est justement ce produit à forte valeur ajoutée qui lui a ouvert les portes de l'export.
Nous vendons 10 à 15% de notre production alimentaire en Arménie, car le marché est très petit, le reste part à l'export. Pourquoi exportons-nous vers la Russie ? Parce que le marché est plus accessible pour nous. Il y a aussi une question de mentalité et d'affinité.
Thank you.
said. Said I remember when we used to sit in a government yard in Trenchtown. I'm an observant hypocrite. As they would mingle with the good people we meet. Good friends we've had, good friends we've lost. Along the way, this great future, you can't forget your past. So dry your tears when I say, ooh la la la. It's the way that we rock when we're doing our thing. Ooh la la la. It's the natural life that the refugees bring. Ooh la 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 la. Sweet thing, you're my sweet thing. You're my sweet thing. Said I remember when we used to sit in a government yard in Trenchtown. But I can't remember the rest of the words to the song. So I'm just gonna break it down for y'all. See, it goes. If you were worried about where I've been or who I saw, what club I went to with my homies, baby, don't worry, you know that you got me. If you were worried about where I've been or who I saw, what club I went to with my homies, baby, don't worry, you know that you got me. Yeah, you know you got me. Yeah, you know you got me. Yeah, you know you got me.
Your lovely eyes.